Bienvenue sur France Inter, nous sommes le mardi 5 octobre à la une. Aujourd'hui, cette journée spéciale que France Inter dédie aux femmes afghanes, celles restées dans leur pays coupées du monde, mais aussi celles qui ont pu rejoindre la France et l'Europe. Jusqu'à ce soir, en partenariat avec Combini, elles auront la parole pour décrire leur combat et leurs espérances, comme Marwa, 22 ans, que vous entendrez dans un quart d'heure. Et pour cette journée, un invité exceptionnel dans le 7-9, c'est le président de la République, Emmanuel Macron. Au micro de Léa Salamé, il nous dira quel peut être le rôle de la France aux côtés des Afghanes, mais aussi comment l'Europe et la communauté internationale peuvent espérer peser pour les protéger. Vous l'entendrez de 7h40 à 8h. Anaïs Feugat, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous.
Les titres de l'actualité.
Combien de victimes en France, de prêtres ou de religieux pédophiles dans les paroisses, les camps scouts, les pensionnats ou les écoles catholiques? Le rapport Sauvé est publié ce matin et il fera date dans l'histoire de l'Église de France. La Californie sous la menace d'une marée noire, 24 km de plages évacuées. Et puis la Russie, plus forte qu'Hollywood, une actrice et un réalisateur russe s'envolent ce matin pour la Station Spatiale Internationale pour y tourner un film, on vous raconte en fin de journal.
8h20, le grand entretien avec le politologue et directeur du département Opinion à l'IFOP, Jérôme Fourquet. Il publie avec Jean-Laurent Casly « La France sous nos yeux, économie, paysage, nouveau mode de vie ». C'était aux éditions du Seuil et c'est absolument passionnant. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
France Inter. 9h tout à l'heure, l'heure du séisme attendu pour l'Église de France. Publication du rapport Sauvé sur les abus sexuels et déjà on pressent le choc et la déflagration. 43 ans d'enquête, cette commission a évalué un minimum de 3000 le nombre de prédateurs sexuels qui ont sévi depuis 70 ans dans l'Église catholique. Quant au nombre de victimes, cela va sans doute faire l'effet d'une bombe. Bonjour Rémi Brancato.
Bonjour.
Cette commission s'est constituée fin 2018 à la demande des évêques de France, financée à hauteur de 3 millions par l'Église. Première enquête d'ampleur et indépendante.
Oui, cette commission compte 21 membres, des professionnels du droit, des théologiens, des sociologues, des professionnels de santé, mais aucun religieux. Un gage de confiance pour les associations de victimes qui ne croyaient pas l'Église capable de régler ce problème. La commission a fondé son travail sur la parole des victimes avec un appel à témoignages et des auditions approfondies pour 250 d'entre elles. Une écoute fondamentale pour Thierry Bobet, professeur de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent, membre de la commission.
Ce qui m'a surpris, c'est de voir des personnes d'un certain âge, 60, 70 ans, qui venaient avec un sentiment d'urgence dire des choses qu'elles portaient depuis 50 ou 60 ans, avec l'idée que jamais personne ne les écouterait vraiment. On écoutait pour transformer ces récits en quelque chose qui soit communicable à l'Église, mais aussi à la société et au grand public.
Le premier objectif, c'est bien de documenter l'ampleur des abus, au moins 10 000 victimes dénombrées selon un rapport d'étape. Ce sera sans doute beaucoup plus.
Oui, et sans doute plutôt un nombre à 6 chiffres. Rémi, ce rapport a aussi tenté de voir le rôle joué par l'Église.
Avec une question centrale, la hiérarchie a-t-elle couvert de façon systématique les violences sexuelles? La commission a pu accéder aux archives des diocèses. Les conclusions frapperont fort. L'Église semble avoir dissimulé quasi automatiquement les faits entre les années 50 et le milieu des années 90. Pour Jean-Pierre Rosenzweig, membre de la CIAZ, ancien juge des enfants, le rapport pointera les responsabilités collectives du clergé.
Avoir une relation sexuelle de la part d'un adulte avec un enfant, c'est purement et simplement un crime. La question qui posé par derrière, c'est la hiérarchie des normes. Est-ce que la loi de la République l'emporte sur la loi de l'Église? Pour beaucoup de prêtres, la prise de conscience a été tardive. C'est pour ça que c'est un rapport entre guillemets très politique.
Un rapport qui formulera enfin une quarantaine de préconisations pour changer la gouvernance de l'Église ou la formation des prêtres.
Rémi Brancato, au printemps, l'épiscopat français avait promis non pas des réparations mais des contributions financières pour les victimes. Ces premières réponses à ce rapport sont attendues dans un mois.
Il est 7h04 et journée spéciale donc sur Inter aujourd'hui, consacré aux femmes afghanes.
Leur voix et leur témoignage toute la journée sur notre antenne. Et ce matin, leur voix portée par les ondes Radio Begum, basée à Kaboul, émet sur une partie de l'Afghanistan. La radio a été suspendue, puis réautorisée en septembre. Des hommes y travaillent, des femmes aussi, accompagnées matin et soir dans des véhicules pour assurer leur sécurité. Et c'est depuis la France où elle vit que sa fondatrice pilote son équipe. Julie Pietri l'a rencontrée dans le Perche.
Alors j'appelle Mademoiselle Sabah. C'est depuis son bureau en France qu'Amida Aman prend des nouvelles de son équipe, restée à Kaboul. Au bout du fil, Saba, 24 ans, la directrice de la radio.
Pour l'instant, les choses avancent plutôt bien. Nous avons des rideaux, tu sais, pour séparer les espaces de travail des hommes et des femmes.
Radio Begum est toute récente. Amida Aman l'a lancée en mars quand elle a compris que les talibans allaient revenir au pouvoir. Une manière de se battre, dit-elle, pour que les femmes occupent toujours un peu l'espace public, avec à l'antenne des chroniques judiciaires, des séries, des cours niveau 6e à terminale ou des conseils beauté et santé.
On parlait même un peu de sexualité avant, chose qu'on va peut-être pas faire tout de suite.
L'équipe de la radio, qui a un temps stoppé son travail, a décidé de se confronter aux talibans.
Ça a été difficile d'obtenir un rendez-vous, mais ça a été long. Ils nous ont dit que tant qu'on respecte la charia, les lois de l'émirat islamique d'Afghanistan, nous pouvons émettre. Donc c'est assez vague comme instruction. Je pense qu'ils nous écoutent. C'est pour ça que dans les premiers temps, il faut qu'on soit prudent sur les sujets abordés, etc., pour pas se mettre simplement en porte-à-faux. De toute manière, nous, notre but, c'est d'apporter de la joie à côté des conseils et simplement parler de choses plutôt légères, de sport aussi, parce que ce sont des choses qui un peu changent les idées, à défaut de pouvoir passer des musiques à la mode.
À la place de ces chansons entraînantes, Radio Begum diffuse désormais, à la demande des talibans, des musiques religieuses.
Et ce soir au studio 104, soirée exceptionnelle avec Rebecca Manzoni et André Manoukian, artistes afghans et français. C'est à 20h en public et en direct. Et après le journal de 7h30, l'interview exclusive d'Emmanuel Macron avec Léa Salamé. Presque 7 heures de panne géante et mondiale qui impacte des milliards de terriens, fragilité de la technologie. Facebook, Instagram, WhatsApp et Messenger se relèvent doucement depuis le milieu de la nuit de la panne sans précédent qui vient de les affecter. Incident majeur pour le géant américain. Changement de configuration défectueux, explique ce matin Facebook. Précision tout à l'heure à 7h30. Des kilomètres de plages de sable blanc menacés par la marée noire, la Californie craint de revivre le cauchemar de Santa Barbara 1969. L'odeur de bitume flotte dans l'air au sud de Los Angeles. Sans doute une fuite sur un oléoduc en mer. 500 000 litres de pétrole échappés dans le Pacifique. Le reportage de Loïc Piala.
À Huntington Beach, des pancartes et un bandeau jaune interminable rappellent que l'immense plage est fermée. Certains surfeurs n'hésitent pas à profiter de l'océan malgré tout. George, lui, n'a pas osé se mettre à l'eau, mais il s'est promené sur le sable.
J'ai du pétrole sur mes pieds, j'ai essayé de tout nettoyer, mais il en reste encore ici et là. On en voit partout sur la plage, au pied du ponton, il y a des morceaux de pétrole partout.
L'opération de nettoyage est fastidieuse. Des personnes en combinaison blanche ramassent une par une les boulettes de pétrole. Des bulldozers ont édifié des digues. En mer, on a installé des kilomètres de barrières flottantes pour tenter de contenir la nappe surveillée par bateau et par avion. Mais les associations craignent que les marécages voisins, écosystèmes fragiles, soient durement touchés. Andrea Leon Grossman, directrice de Climate Action.
Il faut encore attendre pour connaître l'ampleur des dégâts. C'est la pire marée noire en Californie du Sud depuis 35 ans. C'est une tragédie. Des oiseaux et des poissons sont morts. Rien de tout cela n'était nécessaire.
70% des Californiens s'opposent au forage offshore, même si les plateformes pétrolières font partie du paysage ici. Aucun nouveau forage n'a été autorisé depuis 1984, mais les puits, déjà en place avant cette date, continuent d'être exploités. Huntington Beach, Loïc Piala pour France Inter.
Il est 7h09, 200 rassemblements prévus aujourd'hui dans toute la France.
Salariés et chômeurs appelés à la grève par la CGT, FO Solidaire, FSU et les organisations de jeunesse. Manifestation parisienne à 14h. Augmentation du SMIC, revalorisation des salaires, des points d'indice et des minima sociaux. Le but affiché des syndicats, mettre les questions sociales au cœur du débat à 7 mois de la présidentielle. Le président, lui, présentera mardi prochain le plan France 2030. 30 milliards d'euros pour penser la prochaine décennie et entre autres ses priorités énergétiques. La consommation d'électricité devrait augmenter de 20% d'ici à 2030. Alors, avec les prix qui flambent, la question nucléaire revient au cœur du débat présidentiel. Yael Gauz. Yael Gauz, qu'on entendra tout à l'heure. Écologistes et habitants de Marseille effarés par les centaines de tonnes de déchets laissés dans les rues par la grève des éboueurs et qui se sont déversés dans la mer après les intempéries d'hier. Le maire de Marseille demande le classement de sa ville en catastrophe naturelle. 11 établissements scolaires sont fermés ce matin à Marseille, ainsi que toutes les écoles et les crèches d'Aubagne. La consommation d'électricité, je vous le disais, devrait augmenter de 20% d'ici à 2030 avec les prix de l'électricité et de l'énergie qui flambent. La question nucléaire revient au cœur du débat présidentiel. On a retrouvé Yael Gauz.
Ce n'est pas parce qu'on a fermé Fessenheim qu'on est devenu anti-nucléaire, tient d'emblée à clarifier un proche du président. Au contraire, souveraineté, pouvoir d'achat, environnement, ce sont trois priorités pour 2022. Et dans l'entourage d'Emmanuel Macron, on estime que le nucléaire répond à ces trois impératifs. Le président avait déjà donné le ton cet été lors de sa visite en Polynésie.
Nous sommes le pays d'Europe qui a le moins de tonnes de CO2 émises par habitant. Nous, on a la chance d'avoir le nucléaire historique.
Le nucléaire d'hier et celui de demain, même avec un mix énergétique en 2035, l'atome sera soutenu. Près de 500 millions d'euros dans le plan de relance et bientôt une nouvelle ligne budgétaire dans le programme France 2030. Investissement dans les compétences et dans la recherche sur une nouvelle génération de réacteurs, les SMR, plus petits mais moins puissants. La ministre Barbara Pompili l'a confirmé hier en déplacement à Marcoussis, près de Paris.
Nous avons besoin de pouvoir avoir de la recherche sur toutes les alternatives possibles pour être prêts quand on va devoir faire des choix de politique énergétique.
Et depuis la rentrée, la France se bat aussi à Bruxelles pour faire reconnaître le nucléaire comme une énergie propre et durable. Les éoliennes ont mauvaise presse, une supercherie, un diktat polluant et anti-rural, avait dénoncé lors des régionales Stéphane Bern, le monsieur patrimoine d'Emmanuel Macron. Le nucléaire, à contrario, serait une chance, clivage à venir et revendiqué face à la gauche écologiste.
Les Américains ont envoyé des touristes dans l'espace. Les Russes leur dament le pion aujourd'hui en envoyant une actrice et un réalisateur dans la Station Spatiale Internationale pour tourner un film avant le projet de Tom Cruise. Départ dans la matinée de Baïkonour à bord d'une fusée Soyouz. Un petit air de guerre froide façon grand écran et qui ne réjouit pas forcément les astronautes actuellement dans l'ISS. Sophie Becherel.
Un astronaute s'entraîne des années avant de voler dans l'espace. Yulia Peresild et le réalisateur Klim Shipenko n'ont eu que 4 mois pour parer toute éventualité. Dimitri Rogozin est le patron de l'agence spatiale russe Roscosmos.
L'entraînement intensif de l'équipe technique comprend l'entraînement au vol, le saut en parachute, le travail au sol et la pratique des situations d'urgence. Car il pourrait y en avoir un millier.
L'actrice qui a passé avec succès le test de la centrifugeuse dit n'avoir aucune crainte. Si on a peur des loups, on ne va pas en forêt, compare-t-elle. Elle tiendra le rôle d'une femme médecin venue secourir un cosmonaute incapable de rentrer sur Terre. Les actuels membres d'équipage russe joueront les seconds rôles. En 12 jours de tournage, il faudra être efficace, souligne Thomas Pesquet, pas convaincu que le jeu envaille la chandelle.
Est-ce que c'est une bonne idée? Je ne suis pas convaincu avec ce qu'on peut faire en studio quand on voit Gravity. Le film est hyper réaliste, évidemment, les gars n'étaient pas dans l'espace. On peut faire des scènes en vol parabolique, on peut faire des effets spéciaux, évidemment, par ordinateur. Je sais que ce sera un challenge. Et si les gens restent pas très longtemps, celui qui soit un peu malade au début pendant 3-4 jours, et puis tout de suite, on va se créer des problèmes. Donc on verra ça avec curiosité, mais avec intérêt.
Sans compter la difficulté de faire de belles prises de vue, en particulier depuis l'intérieur de l'ISS, il y a de la concurrence, car certains astronautes, dont Thomas Pesquet, sont devenus d'excellents cadreurs.
Voilà les titres provisoires de ce film russe, Le Défi, tout un programme.
Merci Anaïs Feuga. Dans un instant, le témoignage exceptionnel de Marwa, jeune femme afghane, à l'occasion donc de la journée spéciale que vous propose France Inter.